Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com.
Je vous propose la suite de l'épisode 179, qui est une table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer, que l'on a enregistrée lors de l'événement Femmes au foyer, Mères au travail du 25 novembre 2023, dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et de la diversité de la ville de Bordeaux. Dans l'épisode 179, vous avez pu écouter la première représentation de ce projet sur les questions des injonctions faites aux femmes sur la maternité et le monde du travail. Et dans cet épisode, je vous propose d'aller plus loin avec Clémentine, Karine, Lara et Véronique qui ont bien voulu répondre à mes questions. Je m'excuse pour ma voix que j'étais en train de perdre ce jour-là. J'espère que cet épisode vous plaira.
Déjà, merci beaucoup à toutes pour ce moment qui était fort en émotion, je pense, pour chacune. J'ai trouvé que les rôles étaient vraiment incroyables. Alors aujourd'hui, on a décidé un petit peu d'aller un peu plus loin dans les témoignages pour leur donner aussi la possibilité de pouvoir argumenter, rajouter un petit peu des informations. Parce que du coup, chacune a pu préparer un texte en amont et du coup, tout a été un peu mixé. Donc, juste pour rappel, j'aimerais que chacune d'entre vous puisse se présenter prénom, âge et nombre d'enfants. Et si vous voulez rajouter un petit peu leur âge aussi.
Karine, 46 ans, deux enfants au compteur et qui ont maintenant Eva, 18 ans et Erwan, 16 ans.
Bah, Clémentine, 34 ans et un enfant en cours de fabrication.
Est-ce que c'est le moment où on est censé te dire félicitations peut-être?
Donc Véronique, alors moi je suis la retraitée, la grand-mère, 63 ans. Voilà, donc j'ai quatre enfants et donc de 35 à 27 ans et je suis grand-mère.
Bonjour, moi c'est Lara, j'ai 41 ans et j'ai deux enfants, Noah 7 ans et Ali 3 ans et demi.
Alors, vous avez pu avoir des péripéties chronologiquement en parlant un petit peu de tout ce que ça pouvait représenter d'être mère. Et aujourd'hui, là, j'aimerais bien qu'on voit ensemble quelques petites étapes pour reprendre un peu tout ça. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment s'est passée votre annonce de grossesse à votre employeur ?
Alors, moi, vous l'avez compris dans le texte, je me suis créé mon travail comme ça, j'ai pas eu à le faire. Voilà.
Pardon, je prends ce micro-là. Bah, moi, j'ai, par chance, je suis aussi mon propre patron, donc l'annonce a été assez rapide à faire. Donc, pas de souci de ce point de vue-là, je fais un peu ce que je veux par chance.
Alors moi, à chaque fois, c'était compliqué d'annoncer, donc j'attendais le maximum, mais comme je ne suis pas grosse, comme vous l'avez remarqué, ça se voyait tout de suite, donc c'était un peu embêtant.
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, mon employeur voulait me recruter, et je lui dis que je voulais un enfant, parce que j'étais dans une autre boîte, et il m'a dit, et donc j'ai voulu être honnête avec lui en disant, voilà, j'essaie d'avoir un enfant, donc si j'avais tombé enceinte, ça ne serait pas très honnête de ma part. Et du coup, il m'a dit, écoute, je comprends, si tu veux bien attendre un an au moins pour que les choses se mettent en place. Et pour moi, l'année prochaine, ça serait OK. Donc du coup, voilà, c'était d'un commun accord et on a attendu un an. Et après, du coup, le bébé est arrivé, donc tout s'est très bien passé.
Merci beaucoup. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des pressions. Alors déjà, si on a qui ont envie un petit peu de nous parler de la signification de ce mot « pression », et c'est surtout, est-ce que vous avez subi une quelconque pression avant, pendant ou après la grossesse ?
Moi, ma pression venait finalement des projections de mon entourage très proche, ma mère, ma grand-mère, les autres, bah parce que voilà, on représente, on est un incubateur vivant et on représente quelque chose de là où elles ont raté quelque chose, elles, et elles veulent nous donner beaucoup de conseils qui, moi, m'ont donné beaucoup de pression. Et puis, du côté de monsieur, c'était ma belle-mère, la pression de la réussite. Ça paraît con dit comme ça, mais il fallait vraiment que je fasse un bébé parfait. Ça m'a beaucoup angoissée, j'avoue.
Moi, pas tant que ça, finalement. Du côté de ma famille, en tout cas, ça va, pas trop de pression. La belle famille, un peu plus. Ça fait quelques années, c'est une famille où on fait des enfants très tôt, donc ça fait quelques années déjà qu'elles étaient un peu sur notre dos, et surtout chaque repas de famille, j'avais droit à « bon alors, quand est-ce que tu donnes une cousine, machin et tout ça ?» Ou là où ça me gênait beaucoup parce que je considère que ce qui se passe dans mon utérus ne regarde que mon mari et moi. Et surtout, je trouve que c'est toujours des questions un peu indiscrètes parce qu'ils savent pas. Enfin, au moment où on est en train d'essayer, ou enfin voilà, on peut subir une fausse couche ou n'importe quoi, et c'est pas du tout le moment d'en parler à un repas de famille. Donc un jour, je leur ai fait la blague. Je leur ai dit, écoutez, j'ai fait une fausse couche avant-hier justement, puisque vous en parlez. Tout le monde était absolument gêné, et ils ont arrêté d'en parler au repas de famille.
Sinon, moi, c'était plutôt au travail en fait. J'ai fait des études masculines, comme on dit. En fait, je suis ingénieure des mines. Et donc, dans mon travail, on était quasiment les femmes, on était les premières à être embauchées. Donc, et à chaque fois que je changeais de travail, on me demandait, alors les enfants, est-ce que vous allez avoir des enfants? Vous avez un enfant, est-ce que vous allez en avoir un deuxième, etc. Il n'y a que quand j'ai eu le quatrième, là j'étais enceinte quand je me suis fait embaucher, mais là, quatrième, ce n'était pas envisageable pour les gens. Donc, on ne m'a rien demandé, donc j'ai rien dit. Voilà.
Alors moi, non, je n'ai pas eu pas de pression. Par contre, je me suis fait ma propre pression dans le sens où moi, j'ai vécu une première fausse couche. Et entre ma fausse couche et lorsque j'ai eu mon premier, on a mis beaucoup de temps à l'avoir. Et en fait, la pression que je me suis mise, c'est pourquoi les autres arrivaient à tomber enceinte et pas moi. Donc ça, c'est la pression que je me suis mise toute seule.
Oui, alors effectivement, si on va sur ce plan-là, c'est pareil parce que la première, j'ai eu du mal à l'avoir. J'ai même été sous traitement. Je dirais le deuxième, ça a été un traitement très court, donc ça n'a pas été efficace. Mais enfin, ça a marché, mais pas à cause du traitement. Et effectivement, on se met la pression, on se dit, les autres y arrivent, pas moi. Ça, je connais bien. Après, pour les autres, ça a été beaucoup plus facile, même, ça a été improvisé, on va dire.
Du coup, c'est assez intéressant de voir un petit peu la pression de chacune. Ça a été des parcours plus ou moins similaires ou pas. Souvent, c'est vrai que les repas de famille, c'est toujours un grand moment de pression pour plein de sujets. Et je pense que ça fait réfléchir aussi à se dire, est-ce que moi, un jour, j'ai mis cette pression à quelqu'un? Et du coup, de toute façon, c'est fait, donc on ne peut pas revenir en arrière. Mais peut-être aujourd'hui, de faire attention à quelqu'un en se disant, ok, j'aurais eu envie de lui dire ça, mais peut-être que ça serait mieux de ne pas le faire, parce que je ne sais pas ce que cette personne a vécu. Maintenant, j'aimerais bien aborder avec vous, après la pression, il y a aussi le soutien. Donc, quel soutien avez-vous reçu avant, pendant ou après la grossesse? Et que signifie le mot soutien pour vous? Parce qu'on a pu en parler un petit peu avant, et c'était rigolo, parce que j'avais pas du tout appréhendé ce sujet comme ça. Je me suis dit, moi, quand je parle de soutien, je parle de l'entourage, par exemple, peut-être que la famille est proche, et puis du coup, ils vont pouvoir garder l'enfant. Et puis en fait, chacune avait un peu sa signification, donc j'ai trouvé ça assez rigolo de pouvoir leur permettre de justement expliquer ça.
Alors, le soutien pour moi, oui, ça, c'est là où ça a déclenché l'hilarité de Sarah. C'est une très très bonne amie à moi qui a cru bien faire, donc à l'instar de ce que tu venais de dire, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est pas forcément demandé et c'est pas forcément le bienvenu. Je pensais pas être ce genre de femme, mais j'ai reçu un super livre, Comment devenir maman. Ça m'a saoulée. Elle a pris ça pour c'était un cadeau, c'était pour me soutenir peut-être dans mes questionnements qu'elle avait donc présupposés que je n'avais pas. Et voilà, c'était un soutien pour elle. Et moi, je n'ai pas trouvé ça soutenant du tout. Après, j'ai eu mon ex-belle-mère dans le même genre qui m'a donné un soutien. Alors, pas financier, ça aurait été appréciable. Mais plutôt, elle m'avait fait un chèque pour une femme de ménage. En me le donnant d'ailleurs, en me disant, comme ça nettoiera un peu ta maison. Puisqu'apparemment, c'est très sale et tu as du mal à t'en occuper de ton intérieur. C'était un soutien. C'est sa façon de voir les choses. J'ai reçu... Alors, plus que du soutien pour le après, vraiment, c'est vraiment sur l'après. Moi, le soutien dont j'aurais peut-être eu besoin, mais que je me suis peut-être pas autorisée à demander, c'était de l'amour. Et j'en ai reçu de manière finalement assez indirecte, et j'ai apprécié ça. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'échanges, il faut dire les mots, c'est très important pour moi. Et pour autant, des personnes qui je m'y attendais pas ont eu des gestes extrêmement doux, extrêmement délicats, parce qu'ils ont juste senti ou vu que j'avais besoin de soutien physique parce que j'avais un corps endolori, j'étais très fatiguée et certaines personnes ont eu la délicatesse de ne pas me traiter comme une espèce de personne qui... Enfin, j'étais pas malade, j'étais juste enceinte. Ça, c'était le avant. Et le après, c'était « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, ça nous engage à être vraiment présent pour l'autre et de lui donner quelque chose, ben voilà, juste dire, bah tiens, je sais que t'aimes bien le thé, je te prépare un thé, on en boit un ensemble. Mais pas me traiter comme une handicapée ou comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire, et pour autant qui soutient mon corps endolori. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ben, moi, c'est très frais, j'en parle très peu. Bon, là, c'est l'occasion, mais j'en ai très peu parlé autour de moi. Donc, pour l'instant, soutien, je ne peux pas trop me prononcer. Je dirais évidemment ben, à mon compagnon. C'est pas rien, je sais que c'est pas le cas toujours de tous les compagnons, qui est quand même très présent, qui a téléchargé une petite appli sur son téléphone, qui tous les matins la check, me lit, tu vois, il me dit tel conseil, voilà, c'est genre, pour l'instant c'est encore assez dans l'intimité, et c'est pas mal aussi. Je pense, j'apprécie aussi le fait de ne pas en parler, de ne pas être réduite à ça pour l'instant, quand, enfin, bon, comme ça se voit pas, mais de pas ce qu'on se dit tout, ah la femme enceinte, est-ce que ça va, est-ce que si, est-ce que ça, je trouve ça bien. Mais voilà, oui, le soutien du quotidien, quoi. Pour l'instant, je peux juste manger du fromage à tartiner, donc il passe son temps à aller m'acheter du fromage à tartiner, et on en a plein le frigo, c'est des petits gestes, mine de rien, ça compte.
Oui, alors moi, le soutien, ben, en fait, je suis d'une famille qui a beaucoup déménagé, et nous-mêmes, donc on est expatriés, enfin, on est en France, mais on était loin de nos parents, et donc je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de soutien de ce côté-là, si, par téléphone, mais pas au quotidien. Et voilà, donc c'est un autre mode de vie quand on n'a pas les parents à 5 minutes pour aller garder les enfants, quand on est fatigué, donc on se débrouille un peu par soi-même.
Alors moi c'est marrant parce que le mot soutien pour moi, ça veut dire que tu dois être soutenu dans un moment de faiblesse ou dans un moment de souffrance. Et du coup, guerrière que je suis, pour moi, non, pendant la grossesse, j'ai pas eu de soutien, mais parce que j'en ai pas demandé et parce que pour moi, je devais être capable. Voilà, j'étais maman, j'étais enceinte et puis on te dit félicitations, donc j'ai pas besoin de soutien, quoi. C'est que du bonheur. Donc j'ai pas besoin de soutien de ce côté-là. Et en revanche, quand bébé est arrivé, là par contre, j'étais en souffrance par rapport au tsunami qui est arrivé dans notre vie et auquel on ne s'attendait pas du tout, parce qu'avec mon conjoint, on est deux enfants uniques en plus, donc frères et sœurs, regarde, babysitting et tout, ça nous est jamais été arrivé. Et en fait, bah, le soutien, même si on n'a pas les grands-parents en plus à côté, mais ils ont quand même été là, les grands-parents quand même, une est en Normandie, l'autre est en Dordogne, pour quand même de temps en temps nous prendre bébé pour, voilà, pour nous octroyer un petit moment pour souffler. Voilà.
Merci à toutes les quatre. Alors, je vous invite aussi à vous poser la question, le soutien, ça signifie quoi pour vous? Est-ce que vous pensez que vous avez été un soutien pour quelqu'un autour de vous? Comment vous manifestez ce soutien? Est-ce que vous posez simplement la question? Des fois, le plus simple, c'est simplement de dire: est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu aimerais que je t'aide à faire quelque chose? Et voilà, il ne faut pas aller forcément beaucoup plus loin que ça. Et peut-être, justement, de simplement poser la question, c'est plus simple que de présupposer de ce qu'a besoin la personne en faisant une bonne action, en essayant de bien faire. En fait, on peut arriver à la blesser. Alors que si vous avez simplement posé la question, ça peut très bien se passer. Maintenant, ce que j'aimerais un petit peu voir avec vous, c'est comment s'est passé le retour au travail après l'accouchement.
Alors, comme évoqué, moi je l'ai vécu avant, pendant, après, puisque le retour au travail, c'était mon travail. On venait de créer une boîte, donc il n'était pas question qu'on abandonne les choses. Hein. On était Bonnie and Clyde, hein, on va dire comme ça. Donc nous, on était en pleine expansion dans l'entreprise. Et... je ne me suis pas accordé ce temps, alors je n'ai pas de problème avec ça, hein. c'est que juste j'en ai pas eu besoin. Je ne me suis pas dit, il faut que je reste à la maison pendant les 2-3 premiers mois, et puis je vais la mettre chez une nounou. Alors j'ai d'ailleurs fait le métier de femme à qui je n'aurais jamais confié mes enfants. Ce sont des femmes très bien les nourrices, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais pour moi, j'étais une mère louve, donc c'était animal. Quoi qu'il arrive, c'était moi et mes gosses. Et peu importe si je travaillais dans mon entreprise ou dans une autre entreprise. C'était comme ça. Donc, ben voilà, moi, j'ai le retour. En fait, ben, j'ai accouché. J'ai pris un repos, somme toute, subsidiaire, on va dire ça comme ça. et après, quand j'étais capable d'être debout sur mes deux jambes, c'est-à-dire 15 jours après, j'étais dans mon entreprise avec mon bébé sur le ventre, dans une écharpe. Et voilà, et en avant Guingamp, quoi. J'ai pas réfléchi. c'était naturel et effectivement la reprise au travail a été assez comique parce que comme je vous l'ai dit dans le texte, c'est véridique, hein, les collaborateurs que nous avions, donc les salariés que nous avions, m'ont connue enceinte. Ils ont ensuite connu Eva hors de mon ventre, mais bien souvent sur mon ventre ou dans mon dos pour la bercer. Et ils ont eu aussi parfois eu connaissance des moments d'allaitement. Parce que, bon, je rappelle qu'on était dans une boîte de BTP, donc bah, parfois ils oubliaient juste de taper à la porte de mon bureau parce qu'ils avaient un truc à me demander. Et ils se retrouvaient nez à nez avec les mamelles nourricières. Et donc c'était très gênant pour certains collaborateurs, surtout ces messieurs, hein, puisqu'on est dans le monde du bâtiment. Mais c'était très drôle parce que du coup on a engagé des vraies conversations profondes et c'était très très drôle. Enfin moi en tout cas j'ai pas vécu cette période de façon stressante, j'ai pas eu de pression. Voilà, moi mon retour au travail, en fait j'avais l'impression de revenir dans ma, je vais le dire, j'avais l'impression de revenir dans ma famille, dans ma deuxième famille, celle que je m'étais créée.
Bah moi ça a été assez classique, hein, mais évidemment quand même, comme j'ai adoré allaiter, j'ai allaité mes quatre enfants. Ben, y a toujours ce moment où il va falloir arrêter l'allaitement, enfin, ou du moins l'arrêter complètement pour reprendre le travail. La première fois, j'étais parisienne, donc là, à Paris, c'est pas la peine d'attendre une commisération quelconque du médecin. On m'a dit, vous êtes en forme, vous retournez au boulot. Voilà, donc après, ben, c'est le problème des nourrices, effectivement, des gardes, c'est compliqué. Je crois qu'on a eu à peu près tous les modes de garde. Sur le retour, après on s'y fait, on pense qu'on va pas arrêter, qu'on va pas réussir à arrêter l'allaitement, et puis finalement le bébé comprend, et donc il commence à prendre un biberon le jour où on commence à travailler, donc on se dit ouf, ouf ça marche, et voilà.
C'est marrant comme quoi on est vraiment toutes différentes. Je dis c'est marrant comme quoi on est vraiment toutes différentes. Alors moi je suis l'inverse de Karine, hein, c'est-à-dire que moi je suis tout sauf la maman louve. C'est-à-dire qu'on aura compris, ça a été tellement un tsunami et moi j'ai une valeur avec mon conjoint pareil, on a une valeur liberté, c'est numéro un. Donc l'arrivée d'un enfant, vous imaginez bien que la valeur liberté, on se la met derrière l'oreille. Donc j'attendais qu'une chose, au contraire, c'était pouvoir retrouver mon job, pour pouvoir avoir un semblant de liberté et avoir l'impression que je ne suis pas que maman, mais que je suis aussi une femme qui bosse et sortir de toutes ces couches, de ne plus avoir de lien social. Moi, ça me saoulait de me dire, putain, il fallait que je demande presque la permission d'aller au marché à mon conjoint et de me dire, waouh, c'est ma sortie de la semaine, quoi. Et du coup, non, moi, je l'ai super bien pris. J'attendais qu'une chose, c'était retrouver mon boulot pour me dire que je ne suis pas que maman, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. C'est vrai, comme tu l'as dit, on est toutes différentes. Donc j'espère en tout cas que ces parcours de vie ont pu vous faire du bien, vous dire que peut-être vous êtes reconnues dans le parcours de certaines de ces femmes ou que c'est un mélange peut-être de tout le monde. Et j'espère que du coup ça vous a fait du bien. Dans la dernière question, moi j'aimerais savoir quel message vous aimeriez passer aux futures mamans d'aujourd'hui.
Je l'ai beaucoup évoqué quand on a fait notre rassemblement à toutes les cinq. Et moi, j'ai juste envie de dire autorisez-vous. Juste autorisez-vous. Vous avez le droit. Et puis, il n'y a personne qui peut négocier ça pour vous.
Oui, mais ça va être assez similaire. Hein. C'est ne vous justifiez pas, ne vous excusez pas. Faites les choses comme vous le voulez et comme vous le sentez, quand vous le sentez aussi et si vous le sentez. Et c'est pas toujours facile parce que la femme enceinte est vite un objet public dans l'espace et tout le monde y va de son petit commentaire, mais je crois qu'il faut faire les choses comme vous le voulez avant tout pour vous et pour l'enfant à venir.
Moi, ça va être dans la lignée de ce que je disais auparavant. Ça va être vraiment ne vous oubliez pas. On n'est pas que maman. On n'est pas que maîtresse, on n'est pas que des amis, on n'est pas que la fille à ses parents, on est aussi simplement des femmes, on est une entité à part entière. Et pour moi, je pense que pour une vie épanouissante en tant que parent, et je l'ai vécu du coup là-dessus, pour moi c'est vraiment important qu'on prenne conscience, qu'on gère notre temps pour prendre du temps pour nous. Et excusez-moi, je vais être peut-être un petit peu vulgaire, mais fuck les injonctions, quoi. Voilà.
Et puis je rajouterais quand même que, moi, mes enfants sont plus grands, donc à l'époque, le conjoint, enfin le père, il n'avait quasiment pas de congé paternité. Maintenant, c'est différent parce qu'on en a parlé de mère, mais jamais de père. Et donc, il y a un partage qui se fait plus facilement. Et donc, il faut rester à l'écoute de soi-même parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a, pas mal de mamans qui sont en dépression postpartum. Et donc, il faut faire appel quand on en a besoin. Et il y a même aussi parfois des hommes, il y en a trois fois moins, mais on commence à comprendre qu'il y a aussi des hommes qui sont en dépression postpartum après la naissance du bébé. Donc, globalement, il faut s'écouter. Et quand on voit que ça va pas bien, il ne faut pas hésiter à faire appel parce que sinon, après... ça peut être ravageur sur des années.
J'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Lara et aussi Véronique. Quand j'ai dit le terme « autorisez-vous », en fait, j'ai envie de dire « autorisez-vous à être » plutôt que de vouloir devenir à tout prix. Parce qu'on ne devient pas que l'épouse de, que la fille de, on doit être une parfaite exécutante ou une parfaite dirigeante, que sais-je. Autorisez-vous à être d'abord avant de vouloir devenir. Voilà.
Et peut-être une dernière chose aussi. Juste, non, parce que vraiment, ça me, vous savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais il y a le couple aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et pour moi, c'est aussi important de se rappeler que, un, on est une équipe, et qu'avant d'être parents, on est deux amoureux, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi aussi, la communication dans le couple et se dire qu'on est une équipe, c'est on n'est pas l'un contre l'autre, c'est pas celui qui aura raison ou celui qui aura tort, c'est vraiment de se dire on est ensemble, on est une équipe dans l'éducation de cet enfant.
Merci à toutes les quatre. Et pour finir, moi, c'est une question qui me taraude à chaque fois que je croise quelqu'un qui est enceinte. Ça les a fait beaucoup rire et ça a été la question de fin juste avant. C'est au final, pourquoi tu fais un enfant ? Moi, je me demande toujours, est-ce que avant de faire un enfant, les gens se posent cette question ? J'ai déjà posé la question à des amis autour de moi, elle me dit, bah, tu sais, le désir d'enfant, ça se contrôle pas. Alors, moi, je trouve ça très bizarre. Et puis, c'est surtout, c'est qu'au final, on a énormément d'informations aujourd'hui. Donc, il y a une partie de la population qui peut ne pas avoir envie d'avoir d'enfants pour X ou Y raison. Mais c'est aussi de se dire, ben, ok, à l'époque, on manquait d'informations. Donc maintenant, c'est quand même bien d'en avoir. Mais à quel niveau on a besoin aussi d'avoir autant d'informations ? Parce que franchement, maintenant, ça fait juste flipper. On se dit, mais ok, du coup, on sait que ça, ça va être comme ça, ça, ça va être comme ça. En plus, il y a des profils très variés. Donc on peut se dire, bah, c'est un peu la loterie, quoi. Au final, soit ça va super bien se passer, c'est trop cool, soit ça va être juste horrible. Donc en fait, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça ? Parce qu'aujourd'hui, et heureusement, on a le droit de pouvoir avoir un enfant ou non. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et pour finir, moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez fait des enfants ?
Alors, ben moi la question ne s'est pas posée comme ça, puis elle ne s'est pas posée tout court. Pour moi, l'ADN d'une famille, puisque moi, ma valeur première, c'est la famille. Les enfants, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur dans une maison. Après, on pourrait me tacler de clichés, du dire que ben, voilà, c'est la lignée, la descendance, oui, oui, un peu de tout ça. Mais en vrai, moi, c'était juste pour mettre, je sais pas, c'était pas pour m'accomplir moi, clairement pas. En tout cas, pour moi, ça a été une joie. Absolue. Mes enfants ont été désirés, voulus. Je les ai totalement assumés. Je vis en totale, à la fois symbiose et liberté avec eux. C'est assez bizarre comme relation qu'on a parce que bah, voilà, je suis une personne singulière. Mais en vrai, je ne me suis pas posé la question du pourquoi. Parce que ce n'était pas un pourquoi pour moi. C'est venu à moi parce que ça devait l'être. Voilà.
J'ai pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse rationnelle. Je ne vais pas répondre pourquoi. encore maintenant, je me pose la question de pourquoi, depuis que j'ai enlevé mon stérilet finalement. Je me dis, je sais pas. Pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant, moi. C'est venu assez récemment. J'étais même convaincue que j'en aurais pas en me disant, en fait, j'ai pas ce désir, j'ai pas cette envie, j'ai pas la place dans ma vie, j'ai pas. Et puis c'est venu comme ça. Pourtant, bah, ouais, bah, je suis une écologiste convaincue, donc je me dis, bah, le climat, bah, si, ben ça, ma vie va changer, mon appartement n'est pas assez grand, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, plein de questions super rationnelles et je n'ai pas de réponse rationnelle à apporter. C'est complètement irrationnel. Je pense que c'est peut-être une aventure que j'ai envie de vivre avec mon compagnon, que c'est une expérience que j'ai envie d'avoir. Et oui, je ne sais pas si on peut parler de désir, c'est pas venu comme « Oh mon Dieu, un enfant !» où j'ai bavé sur les enfants pendant des mois. C'est juste, je me suis dit « Ah oui !» En fait, à un moment, je crois que je voyais les points négatifs, je voyais les points positifs, et à un moment, les points positifs vont finir par me séduire suffisamment pour que je me dise « Bon, bah, je ferai avec les points négatifs. » Je crois que c'est comme à chaque fois qu'on fait des choix, tout n'est pas tout rose, mais je me suis dit « Oh bah, bon, ça va, je vais gérer, parce que finalement, le côté positif m'attire, et donc ça s'est fait un peu comme ça. » Mais j'ai pas vraiment la réponse.
En fait, oui, moi c'est un peu pareil, je dirais, moi, bon, d'abord je suis issue d'une famille nombreuse, donc les fratries pour moi c'est important, la famille c'est important, bien qu'on soit une famille un peu éparpillée, mais enfin on s'arrangeait toujours et on s'arrange toujours pour se voir à certains moments, Quand on a commencé à travailler, donc je suis ingénieure, on se retrouve à Paris, mon mari est ingénieur aussi, donc on gagnait bien notre vie, on sortait tout le temps avec les copains, etc. Mais en fait, j'ai vécu aussi des deuils un peu traumatiques quand j'étais jeune, et pour moi, il n'y avait pas... je ne me projetais pas dans l'avenir, quoi. Je ne voyais pas à quoi ça servait, tout ça, le sens de la vie. Et finalement, le sens de la vie, je me suis dit, je veux un enfant, c'est ça le vrai sens de ma vie, c'est les enfants. Et donc ça a été à l'origine de ce désir de créer une famille, en plus du fait qu'effectivement, j'ai toujours vécu mes grossesses de manière très confortable. J'avais une pêche d'enfer. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Même si je pouvais recommencer demain, je le referais, en fait, pour tout vous dire. Voilà. Comment ? Ah ouais, ouais. Mais c'est surtout ça, le sens de la vie. Et sur mes quatre enfants, il n'y en a qu'un qui est pour l'instant qui est père. Et donc, je me dis, c'est beau parce que dans le contexte actuel, qui est tellement déprimant, on met une telle charge sur les épaules des jeunes, je trouve ça vraiment un signe d'optimisme, d'avoir envie de faire des enfants. Puis d'un autre côté, c'est la vie qui se poursuit. Enfin, voilà.
Moi, je ne m'étais pas posé la question avant que tu la poses, j'avoue. Donc, ça m'a fait réfléchir, là, pendant le... Et en fait, je pense qu'il y avait deux choses. C'est un, pour nous, c'était simplement la continuité logique de notre amour. Et on voulait, qu'il y ait un aboutissement à cet amour-là, qui est encore là, d'ailleurs. Et donc, c'était la suite logique. Et en même temps, je pense qu'en fait, il y a les diktats de la société qui font que, finalement, c'est comme si, en fait, une femme devait être accomplie. Enfin, si elle avait des enfants. Et si elle n'avait pas d'enfants, c'était pas une femme accomplie. Voilà. Et que c'est pour ça que souvent tu parlais de pression tout à l'heure. Et en fait, je pense que dans la tête des gens, en fait, le rôle de la femme, c'est vraiment de faire des enfants. Et je pense que voilà, c'est quelque chose de logique finalement dans la tête des gens. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui se posent réellement la question « Pourquoi je veux un enfant ?»
Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir trouvé des réponses à cette question qui me taraude beaucoup. J'espère vraiment que ça a pu vous éclairer. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on arrête cet événement ?
Oui, on peut partager si vous avez des choses à dire, des choses, vous voulez rebondir avec plaisir.
Oui, donc je pense que nous, la pression d'être mère... Au contraire, beaucoup de jeunes femmes affichent aujourd'hui un désir. Je ne pense pas qu'il y ait de pression de la société et le regard a vraiment changé. Je pense que depuis 20 ans au moins. Donc, non, moi je ne crois pas. Puis en plus, vous qui êtes prise de liberté, je pense que vous n'avez que faire des avis des autres.
Oui, alors je dis ça parce que j'ai une amie qui ne souhaite pas forcément avoir d'enfants et qu'elle me disait que c'était très pénible pour elle de pouvoir assumer son désir de ne pas avoir d'enfants, parce que même si je suis d'accord avec vous aujourd'hui, on ne sait plus comme il y a 40 ans, la parole là-dessus se libère beaucoup plus et vous avez tout à fait raison, mais je trouve que voilà, elle me disait qu'aujourd'hui c'était terrible parce qu'elle a l'impression de n'être personne, parce qu'elle avait... Ce sentiment de que les gens lui disent alors t'as trouvé quelqu'un et attention t'as vu de la
lâche. Mais ça c'est encore différent, donc là peut-être la pression de vivre seule, de ne pas être en couple, de pas, mais est-ce qu'elle dégage pas aussi elle quelque chose, vous voyez, de parce que quand on voit quelqu'un d'épanoui, souvent on se pose moins la question, à part souvent oui en effet lors des repas de famille ou ça peut être un petit peu, au départ, un petit peu amusant, enfin, sur un ton un peu badin, et ça devient vite pesant.
Je pense effectivement que vous avez raison en disant que on en parle de plus en plus, on accepte de plus en plus que des femmes n'aient pas d'enfants. Oui. Il y a effectivement une grosse revendication là-dessus, et c'est chouette, parce que c'est une vraie liberté. Mais il y a quand même une certaine pression. Moi, je m'en rends compte dans mon travail. Je joue beaucoup chez l'habitant, il y a des rencontres avec les spectateurs, etc. Et par exemple, quand je pars en tournée 3 mois, les conversations, elles finissent toujours... pouvoir tourner autour de ça, c'est-à-dire j'ai plus de 30 ans et depuis que j'ai plus de 30 ans c'est systématiquement tu es mariée et tu pars, tu laisses ton mari à la maison, il dit rien et vous avez des enfants, tu n'as pas d'enfants mais est-ce que tu en veux, avec des parfaits inconnus que j'ai rencontrés ouais. 2 heures avant et à qui je me dis bon je trouve, enfin c'est vrai que les gens ils pensent pas à mal, je crois qu'ils posent la question pour poser la question, or c'est pas une question anodine comme la météo en fait, encore une fois c'est très intime, mais moi j'avais l'impression, enfin je rentrais de tournée en me disant bon, tous les soirs pendant 3 semaines, on me demande alors, vous avez un enfant, etc. Et il y a aussi à un moment, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale, j'ai pris beaucoup de poids. Les gens ont passé leur temps, même des inconnus. Je croise des gens au parc, je promène mon chien, on me dit « Ah, oh, mais ce ne serait pas un petit ventre de femme enceinte ?» Je me dis « Quand bien même, mais on ne se connaît pas, madame. » Enfin voilà, et du coup, je dis « Qu'est-ce que c'est que cette conversation ?» Et c'est voilà, vraiment des inconnus, des amis. Et alors, c'est chouette et machin. Puis je dis « Bah non, en fait, je suis juste grosse, voilà. » Et je n'ai pas forcément non plus envie d'avoir une discussion là-dessus. Et je trouve que c'est des questions vraiment super intimes. Quoi. Mais il y a un truc, comme les gens, ils voient quelque chose de très positif, ils projettent plein de choses. Or, moi, je trouve que c'est des questions vraiment très intimes. Bon, quand ça commence à se voir, ça commence à se voir, c'est comme ça. Mais quand même, je trouve que c'est des questions
intimes. Moi, j'ai fait le choix, je n'ai pas eu d'enfant. Et quand j'étais plus jeune, ce n'était pas de la pression ou un ton un petit peu de jugement. C'était au contraire, quand on me disait « Vous avez des enfants ?» Je disais « Non, oh, ma pauvre !» Je disais « Non, 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 c'est un choix. C'est pas, voilà, j'étais en capacité d'en avoir. Ah bon ?» Mais c'était plutôt, une incompréhension, mais j'ai pas eu de sentiment d'être jugée, non. Puis en plus, peu importe.
Après, si on est honnête, on c'est pas une légende urbaine, hein, avant 30 ans, parce que t'as ton horloge biologique qui tourne. Moi, je vous dis, j'avais presque 28 ans. À ce moment-là, c'était, je dirais que j'étais à l'apogée de quelque chose pour moi, d'une réalisation professionnelle, d'une réalisation aussi d'un couple. On ne va pas se mentir, au début on est très autarcique, c'est l'amour fou, on n'est que tous les deux. Puis quand on en a eu marre de se tourner autour tous les deux, on s'est dit tiens, si on avait un troisième coloc qui venait dans le truc, quoi. Voilà, c'était comme un aboutissement. Mais je ne l'ai jamais pensé, et là je vous rejoins, comme un accomplissement de femme. Une femme, elle n'est pas parfaitement pleine et entière, bah justement, quand elle est pleine et qu'elle doit faire un enfant, pour moi ce n'est pas ça. En vrai, mais on m'a quand même fait la réflexion, ah bah quand même, 28 ans, il était temps. On me l'a balancé. Et en même temps, alors que pour autant, j'étais une femme qui désirait des enfants. Je ne me suis jamais cachée de ça. Même à la base, moi, j'en voulais quatre, comme Véronique. Parce que chez moi, on est très terroir, on est dans la campagne, et la chaise à la quatre pieds. Voilà. C'est la stabilité. J'avais pas de problème avec cette vision-là. Et pour autant, j'entends une femme qui aujourd'hui, c'est terrible, des femmes qui ne veulent pas, c'est un choix, des femmes qui ne peuvent pas, aussi, ça c'est pas un choix par contre, j'ai beaucoup d'amis très proches qui malheureusement, ou heureusement je sais pas, c'est leur destin de vie, elles ont dû faire des FIV pour avoir le bonheur de procréer et d'avoir un enfant à elles, d'autres qui ont dû adopter parce que ça n'a pas fonctionné, et bien on est quand même dans le regard en disant « ma pauvre ». Et je ne sais pas si ça fait plus appel, chez moi, hein, c'est violent hein, quand je reçois ça, je ne sais pas si ça fait plus appel à la maternité ou juste à ma condition de femme.
Merci. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir eu le courage de porter tous ces témoignages, parce que ce n'est pas toujours évident par rapport à des parcours de vie où il peut y avoir eu des blessures, des choses mal vécues ou d'autres plus heureuses. Moi, ce qui me paraît justement en voyant les différentes positions des unes et des autres, c'est que c'est la question de fond, en fait, c'est une question de liberté. Mais ça, c'est dans notre société, c'est une question de fond et de savoir est-ce qu'on veut vraiment laisser les hommes et les femmes, et je dis bien les hommes et les femmes, être libres, parce que les hommes aussi vivent des injonctions. Voilà, moi j'ai 56 ans, j'ai deux enfants, 28 et 24 ans. J'ai vécu pendant 30, je vais faire vite, hein, mais pour vous me situer, j'ai vécu pendant 30 ans à courir partout, donc là je me suis retrouvée dans vos témoignages et j'ai vécu du harcèlement moral au moment de la grossesse de mon deuxième, c'est-à-dire qu'on m'a mis au placard dès le retour, congé parental, il fallait même pas en parler, c'était qu'à partir du deuxième, et surtout un couple voilà, avec un manque de soutien, et donc tout ça c'est, mais il y a une soif de vie. Il y a un besoin, c'est vrai que ce besoin d'avoir un enfant, je rejoignais ce que vous disiez, il y a des moments, ça ne s'explique pas, besoin de vivre l'expérience, besoin de se reproduire, c'est un besoin primaire, et moi je dis c'est la liberté de chacun, enfin, c'est vraiment, et aujourd'hui la société je trouve, est-ce que c'est à cause du Covid, je ne sais pas, mais il y a quand même une libération un petit peu, on sent qu'il y a des choses qui bougent, on est dans une mutation très profonde. L'écologie, merci, parce que je pense qu'avec la prise de conscience qu'on a face aux éléments climatiques, enfin, il y a quelque chose qui bouge, vraiment, moi je le sens depuis, par rapport à ces 20 dernières années. Et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est à la fois positif par la, la très grande liberté qu'ils prennent à décider ou pas, mais en même temps, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'inquiétude. Et ça, je trouve que c'est un risque aussi, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont passer à côté d'expériences parce que justement, ils vont se l'interdire au nom de diktats qui sont des nouveaux diktats qui apparaissent, hein, liés à l'écologie, liés, on culpabilise beaucoup les gens. Donc, il faut être vigilant, à toujours écouter sa petite voix, à rester libre, en fait, tout simplement, et à montrer qui on est, à ne plus avoir peur, parce qu'il y a le phénomène de peur aussi, de peur de déplaire, de peur de ne pas être à la hauteur, de peur de, peur de. Et tout ça, c'est, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est être vraiment soi-même, être dans le être, et s'écouter. Et plus on sera nombreux et nombreuses, parce que les hommes aussi n'ont pas eu la possibilité d'avoir des congés parentaux assez tôt. J'avais des voisins, ils me disaient, oh, mais non, mais je ne peux même pas imaginer de demander un congé parental, je vais me faire virer. Donc c'est les hommes et les femmes. Mais on est plus fragilisés, on est plus fragiles, on est plus sensible au stress, on est dans des périodes de vulnérabilité. Et je parle ça pour la maternité, pour la ménopause, on peut en parler aussi au travail. Hein, au bout de 50 ans, on vous dégage hein, parce que vous êtes trop vieille.
Ou la donc, puce fraîcheur à la sauter, on me l'a dit celle-là.
Oui, voilà, et puis vous coûtez trop cher parce que ça fait 20 ans que vous êtes là, il n'y a plus d'évolution. Enfin, tout ça, j'ai vécu, donc... Et il faut que la parole se libère, il faut qu'on en parle pour que ça devienne, c'est comme pour les personnes handicapées, tous ces sujets-là, et c'est très bien qu'il y ait la semaine de la quinzaine de l'égalité, il faut voir, il faut arrêter dans le déni de refuser la liberté aux individus. Il faut respecter l'être humain, qui est l'essence même, qui est la vie. Donc est-ce qu'enfin notre société va prendre en compte tout ça ? Voilà. Et votre initiative, je pense, fait partie de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut montrer, de ce qu'il faut dire, et ne plus avoir peur. Et par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'il y a encore une pression familiale forte par rapport aux femmes pour avoir des enfants, parce que dans les familles où il y a encore des générations d'avant, moi je l'entends encore, voilà. Bon, moi-même, j'ai failli tomber dans ce travers-là avec ma fille de 28 ans, ou un jour, mais en rigolant comme ça, c'était même pas parce que je suis très ouverte aussi, je me suis pris un scud en retour qui m'a fait comprendre que le sujet ne pouvait plus être abordé. Et je le disais pas, c'était vraiment une boutade. Enfin, c'était pas j'attends, je vais être grand-mère parce que non. Donc, il y a encore malheureusement, comme vous disiez, on est maladroit, on ne se rend pas compte. On est des fois, imbibés de quelque chose qui se transmet de génération en génération. Ça nous échappe. Et c'est bien que les jeunes nous renvoient ça et nous remettent à notre place. C'est mon choix. Voilà.
Oui, c'est souvent ce qu'ils disent. C'est mon choix. Ouais, voilà. C'est vraiment le terme. Oui. C'est très juste ce que vous dites. Et quelque part, dans votre discours, c'est respecter la lignée invisible.
Oui.
Parce que c'est ça, en fait. Les liens que l'on crée ou les envies qu'on a, peu importe la façon dont on les amène.
Et puis ne pas se tromper, à faire un enfant, ce n'est pas réparer ce qui n'a pas marché avant. Parce que là, moi je l'ai vécu avec ma fille en tant que mère, quand la relation mère-fille, hein, c'est compliqué, pas toujours facile. Et je me suis rendu compte que vouloir faire mieux parce que ça s'est mal passé, c'est une erreur.
Et pour autant, ce que vous lui avez demandé, c'était que de l'amour.
Voilà, mais voilà, donc, et tout ça, on est, donc il faut une maturité, il faut une certaine autonomie, et puis des fois, on a des enfants, mais on n'a pas la maturité, on n'a pas les outils, mais on fait quand même, on fait ce qu'on peut, et puis les jeunes, après, ils grandissent, ils évoluent, ils se rendent compte, eux aussi, en mûrissant, en devenant, et puis il faut savoir prendre des coups, c'est comme ça, c'est le rôle de parent aussi, donc il faut l'accepter. On est des punching balls par moment, mais c'est pour la bonne cause. Voilà.
Sinon, je reviens sur la notion d'injonction. Je pense qu'elles ont changé, mais qu'il y en a encore. Hein ouais. Et en particulier, presque elles sont inversées. C'est-à-dire, tu vas faire des enfants, mais tu as vu la planète, tu n'auras pas de retraite. La pollution, on est trop nombreux. Voilà, ça, ce sont des injonctions dans l'autre sens.
On culpabilise beaucoup. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de culpabilisation. Alors, la culpabilité, on la connaît, nous, femmes. Ouais. Hein, ça fait des siècles qu'on nous l'a inculquée. Il va falloir prendre le fardeau. Mais aujourd'hui, c'est ça, moi, qui me gêne. C'est cette façon de culpabiliser vraiment, mais tout le monde, quoi. Les jeunes, les hommes, les femmes. Enfin,
Mais est-ce que la situation est difficile pour les hommes aussi maintenant, pour savoir se placer dans, dans ce contexte, les jeunes hommes? Enfin, moi, j'ai deux filles, deux garçons, hein, donc je vois bien aussi. Et donc, effectivement, on traite presque d'inconscience ceux qui font des enfants. Alors qu'il y avait cette légèreté à faire des enfants.
Tout à fait.
Ça venait, on était contents, on ne se posait pas trop de questions.
C'est ça.
Il y a plein de pays, il faut quand même le rappeler. Je fais partie d'une ONG, je me suis pas mal baladée. Il y a plein de pays où les gens ne se posent pas ce genre de questions.
Et en même temps, tu vois, c'est que je rebondis sur ce que tu dis, à des âges, des jeunes hommes, tu as bien traduit, on n'est pas que sur des trentenaires. On est sur des jeunes, des hommes pardon, très jeunes qui se posent la question. Et bon, voilà, mon fils n'a que 16 ans, mais lui aussi dit, ça va être compliqué.
Mais c'est lourd, c'est très lourd pour eux.
On sent que c'est lourd, qu'il y a un truc. Et je lui dis, mais tu te rends compte, vous avez le droit au congé papa, vous avez plein de trucs. Il dit, ouais. Mais il dit, en vrai, déjà, pour moi, ça va être compliqué. Je dis, ouais, mais t'as que 16 ans, machin, le truc à pas faire. Mais bon, c'est pas grave, erreur de mère, erreur d'amour, voilà, c'est pas gênant. Et j'ai retrouvé les mêmes mots dans un ami, enfin, dans la bouche, pardon, d'un ami qui a aujourd'hui 29 ans. Il m'a dit, ça va être compliqué. Je lui dis, waouh. Et en fait, il a peur, il est effrayé. Il se dit, parce qu'il se sent... pas à leur place. Et en fait, ils commencent à avoir, les hommes, hein, à avoir des raisonnements de femmes. Alors je dis vraiment, prenez-le pour ce que c'est, hein, dans le contexte, il ne faudra pas que ce soit ressorti hors contexte. Mais vraiment, ils ont cette rumination que nous, on a eue pour toujours de culpabilisation systématique.
Et, maintenant,
ils commencent à se poser la question en disant, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de couper le cordon ombilical? Est-ce que je peux donner le bain à ma fille? J'ai vu ça, hein. Des mecs qui ont peur de donner le bain parce que si jamais ils touchent leur fille différemment comme il ne faudrait pas, mais c'est horrible parce que je me dis, mais mon Dieu, ils n'arrivent même pas à prendre plaisir d'être juste un papa. Ils font des nœuds au cerveau avec de nouvelles injonctions, avec de nouveaux interdits, avec de nouveaux questionnements qui sont complètement improbables.
Disons que les interdits sont d'origine différente maintenant. Avant, l'interdit, c'était le papa, par rapport à l'éducation des grands-parents, des hommes de 80 ans aujourd'hui, voir leur fils s'occuper de changer les couches, enfin ce qu'a fait mon mari, c'était même pas imaginable pour eux. Donc en fait, leur fils, moi j'ai vécu ce petit changement où son père ne faisait absolument rien, c'était sa mère qui faisait tout, la grand-mère. Lui a été dans la génération, donc il est né en 64, où il s'est occupé des enfants, mais pas trop. Voilà. On laisse quand même un certain nombre de choses, mais il y avait déjà une évolution, on sent qu'il y a un changement. Hein. Et là, aujourd'hui, on est en train de basculer. Alors là, il y a les trentenaires actuellement, ou les 40 ans, où là, on sent que les hommes sont beaucoup plus impliqués, et on arrive à un extrême inverse. Voilà. Avant, c'était rien du tout. Là, maintenant, on va retomber dans un extrême où là, je ne veux plus, parce que j'ai peur, parce que je ne veux plus prendre la responsabilité. Je ne veux plus être impliquée, je veux penser à moi d'abord, mon individualisme, il y a une part d'inconscience qui n'existe plus, on conscientise tout, et du coup on va tomber dans une espèce d'extrême inverse où les jeunes aujourd'hui, ah non, je ne m'engage pas, je ne fais pas, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais détruire la planète. C'est pour ça que c'est toujours un problème d'équilibre, il me semble. On est parti d'un extrême où les pères ne faisaient absolument rien et maman faisait tout, à maintenant, peut-être que les pères ne vont pas faire non plus, ou ils veulent carrément plus d'enfants.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir échangé avec nous.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour la régie.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.